Cinquième parole de l'amour infini. Dieu est amour. Toutes les paroles qu'il prononce, tous ses commandements, appellent les hommes à l'amour. Après la quatrième parole de l'amour infini, « Honore ton père et ta mère », qui réclame de toute personne humaine l'amour et le respect du prochain qui lui est le plus proche, Dieu réclame de tous les hommes un amour universel. Tous les hommes doivent aimer les autres membres du genre humain parce que Dieu nous a tous créés à son image et ressemblance. Le premier fondement du devoir pour chacun d'aimer tous ses semblables repose sur le don de l'amour créateur de Dieu, Père infiniment bon de l'humanité. C'est donc un devoir inscrit dans notre nature de nous aimer les uns les autres, parce que nous sommes tous les enfants d'un même Père céleste. Tous les hommes constituent ensemble une grande famille, dont Dieu est le Père. Ayant le même Père, nous sommes tous frères. Le second fondement d'un amour fraternel universel est dans l'immense grâce que Dieu a faite au monde en lui envoyant son Fils, qui s'est fait homme, pour communiquer à tous les hommes sa vie divine. En Jésus-Christ, tous les hommes sont appelés à participer à la vie de Dieu en tant que frères du Fils unique de Dieu. C'est en lui que tous les obstacles à la fraternité humaine sont abolis, que les murs de la haine élevés par le péché sont renversés, et que les hommes, libérés de toute forme de lutte fraternelle, peuvent désormais vivre en paix, unis ensemble par l'esprit d'adoption filiale, dans un amour souverain et indestructible. Le respect de la vie humaine est la première exigence de l'amour ici-bas. L'amour que nous devons à tous nos frères humains doit avoir comme première expression le respect absolu de la vie de chacun, de la vie de son corps et de la vie de son âme. Tel est l'objet de la cinquième parole de l'amour infini, ou cinquième commandement de Dieu. Il est ainsi libellé au livre de l'Exode, « Tu ne commettras pas de meurtre ». Dans le sermon de la montagne, notre Seigneur précise la portée de ce commandement qui ne fait pas qu'interdire le meurtre, mais aussi les sentiments, les paroles, les actions d'où procède le meurtre. Cette violence intérieure qui s'appelle la colère et la haine. Car si ce commandement défend le meurtre, c'est parce que la première exigence de l'amour du prochain est de respecter son droit fondamental à la vie. La religion chrétienne confère au droit à la vie son sens premier. Enracinée dans la loi naturelle inscrite au cœur de toute personne humaine, le droit à la vie que tous les hommes tiennent du Créateur est la base même du droit et de la morale. Et il est consacré par la religion chrétienne beaucoup plus parfaitement que par la religion mosaïque. Car si la loi mosaïque joint l'amour du prochain au devoir fondamental de la justice, la loi chrétienne, en commandant l'amour des ennemis, le met à l'abri de tous les prétextes pouvant servir à justifier sa violation. L'amour des ennemis, en effet, s'exprimant par l'indulgence et le pardon, était ignoré des Juifs et le demeure encore aujourd'hui. L'amour du prochain qui n'est chrétien que dans la disposition à pardonner à ses ennemis les plus féroces est le plus sûr garant de la non-violence et de la paix. La religion enseignée par Jésus-Christ vient ainsi au secours de la loi naturelle pour en révéler et en accomplir tout le sens. Par conséquent, une morale laïque est incapable d'affirmer franchement le droit à la vie. La morale laïque, par le fait qu'elle exclut toute référence à Dieu, et en particulier à la religion chrétienne, est incapable d'affirmer avec la force d'une certitude absolue l'inviolabilité du droit à la vie et de tous les autres droits humains. Car la source de tous les droits de la personne humaine est d'ordre religieux. C'est-à-dire que les droits fondamentaux de la personne humaine, dont le premier est le droit à la vie, reposent sur la volonté bienveillante de Dieu, sur son amour pour l'homme, amour infini, à la fois créateur et rédempteur. La morale laïque, en refusant de soumettre ses règles à l'autorité suprême de la loi divine, ne peut qu'interpréter le droit naturel au gré des principes d'une culture sans Dieu, et en arriver ainsi, au nom de la liberté humaine, à pervertir le sens même du droit. La morale laïque ne pourra jamais réussir à défendre la vie humaine, à la faire respecter, à la servir et à la promouvoir, parce qu'au lieu de s'appuyer sur la volonté immuable de Dieu, elle s'appuie sur la volonté changeante des hommes, qui, lorsqu'ils vivent sans Dieu, poursuivent des intérêts égoïstes et grossiers. C'est ainsi que les États laïques sont amenés à légitimer des crimes abominables comme l'avortement et l'euthanasie, proclamés comme des droits qui font progresser la civilisation alors qu'ils marquent plutôt un retour dramatique à la barbarie. La morale laïque peut certes parler de devoirs réciproques fondés sur la solidarité humaine, mais quelle règle sûre pour la conduite morale peut avoir une solidarité humaine qui ne peut se construire dans le bien lorsqu'elle est détachée de Dieu? Sans Dieu, on ne sait plus ce qui est bien et ce qui est mal, parce qu'il est bien tout ce que prescrit l'État. Et les citoyens deviennent alors solidaires dans l'obéissance à des lois injustes. Et voyons maintenant ce que prescrit la cinquième parole de l'amour infini. Elle défend, on le verra, elle défend le meurtre, mais ce qu'elle prescrit. Avant de voir en détail ce que défend le cinquième commandement, il convient d'insister sur ce qu'il prescrit. Tel qu'expliqué par notre Seigneur Jésus-Christ, ce commandement ne fait pas qu'être subordonné à la charité qui parfait la justice, mais il la prescrit positivement avec toutes les obligations qui l'accompagnent. Car son but est d'assurer la concorde, l'harmonie et la paix entre tous les hommes. Voilà pourquoi ce que Dieu veut de nous, comme Jésus nous en a donné l'exemple, c'est que nous vivions en paix avec tout le monde et que nous devenions même des instruments de paix. Cette paix, qui est la condition et le signe de la vraie fraternité, est si importante aux yeux du divin Sauveur qu'il nous dit, « Si vous présentez votre offrande à l'autel et que là vous vous souveniez que votre frère a quelque chose contre vous, laissez là votre offrande devant l'autel et allez d'abord vous réconcilier avec votre frère. Puis vous viendrez présenter votre offrande. » Les offrandes que nous ferions à Dieu, c'est-à-dire les actes de notre vie proprement religieuse, seraient sans valeur aux yeux de Dieu si elles n'étaient pas accompagnées d'un véritable amour du prochain, dans une union sincère des cœurs, exigeant en l'occurrence, une parfaite réconciliation. Tout sentiment de haine à l'égard de nos frères étant absolument proscrit, car celui qui est son frère est homicide, dit saint Jean, il s'ensuit que sont commandés positivement la charité et l'amour du prochain. Notre charité fraternelle serait illusoire si elle ne comportait pas les vertus sans lesquelles elle ne peut exister concrètement. Ces vertus, saint Paul les énumère dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 13. La charité est patiente, elle est bienveillante, la charité n'est pas envieuse, ni fanfaronne, ni orgueilleuse, ni blessante. Elle ne cherche pas son avantage, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal subi. Elle ne prend pas plaisir à voir commettre l'injustice. Elle prend sa joie, au contraire, dans le triomphe du vrai. Elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Puisqu'il demande que toutes nos relations humaines soient empreintes d'authentique charité, le cinquième commandement nous oblige, en fait, à pratiquer la patience, la bienveillance, la bienfaisance, l'humilité, la douceur, à vivre dans une attention délicate et désintéressée au bien des autres, et dans une disposition constante au pardon, de manière à ne pas répondre au mal par le mal, mais à dépasser la loi du talion en vainquant le mal par le bien. Dans ces diverses vertus qu'on peut obtenir en nous y disposant et en les demandant au Verbe de Dieu incarné, Jésus-Christ, qui en est la source, résident les plus puissants remèdes aux causes morales de tous les meurtres. Car les atteintes volontaires à la vie humaine sont causées par la haine, la colère, l'envie, l'orgueil, la cupidité, les désirs égoïstes de jouissance, l'intolérance vis-à-vis des moindres contrariétés et des souffrances venant du prochain. Les vertus contraires, en assurant le respect et la croissance de la vie humaine, construisent la paix. Comme le remarque le catéchisme de l'Église catholique, cette paix que Jésus-Christ vient donner au monde et qui résulte de la pratique des vertus chrétiennes n'est pas seulement absence de guerre et elle ne se borne pas à assurer l'équilibre de forces adverses. Elle ne peut s'obtenir sur terre sans la sauvegarde des biens des personnes, la libre communication entre les êtres humains, le respect de la dignité des personnes et des peuples, la pratique assidue de la fraternité. Elle est tranquillité de l'ordre. La tranquillité de l'ordre extérieur, ou paix sociale, suppose la tranquillité de l'ordre intérieur, dont jouissent les consciences pacifiées. Parmi toutes les expressions concrètes de la charité, essentielle pour construire une paix durable entre les hommes, il y a d'une façon spéciale la bienfaisance et d'une façon plus spéciale encore, le pardon des injures. Au sujet de la bienfaisance, remède préventif de toutes les formes de haine et de cupidité, et par conséquent de revendications violentes, le catéchisme romain fait cette remarque très opportune. La vertu de la bienfaisance et de la générosité s'étend très loin. Ses fonctions consistent principalement en ceci: à fournir les choses nécessaires aux pauvres, la nourriture à ceux qui ont faim, le boire à ceux qui ont soif, le vêtement à ceux qui sont nus, en un mot, à verser plus abondamment de notre libéralité là où le besoin de notre assistance se fait le plus sentir. Très beaux déjà par eux-mêmes ces actes de bienfaisance et de bonté, ils le sont bien davantage encore quand ils s'exercent envers des ennemis. Car le Sauveur a dit: « Aimez vos ennemis, faites du bien à vos ennemis. » Et saint Paul enseigne la même vérité en ces termes: « Si votre ennemi a faim, donnez-lui à manger. S'il a soif, donnez-lui à boire. » En agissant ainsi, vous amasserez des charbons de feu sur sa tête. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais triomphez du mal par le bien. Faire du bien à ses ennemis dépasse une logique purement rationnelle et même dépasse les forces humaines. Toutefois, cela est tout à fait possible avec la grâce de Jésus-Christ, qui rend ceux qui croient en lui capables d'actions surnaturelles, c'est-à-dire divines. Concernant le pardon des injures, le même catéchisme romain enseigne « Mais le devoir qui est de beaucoup au-dessus de tous les autres, le devoir de charité par excellence, celui auquel nous devons le plus nous appliquer, c'est de remettre et de pardonner de bonne grâce les injures que nous recevons. » Pour nous y amener complètement, la Sainte Écriture, comme nous l'avons dit plus haut, a des recommandations et des exhortations multipliées, ne se contentant pas d'appeler heureux ceux qui s'en acquittent entièrement, mais en leur promettant encore de la part de Dieu la rémission de leurs péchés, tandis que cette rémission est refusée à ceux qui négligent ou qui refusent formellement de pardonner. Pour surmonter l'esprit de vengeance, qui est en quelque sorte inné au cœur de l'homme, le catéchisme romain, se référant à la Sainte Écriture et à la doctrine des Pères de l'Église, fait trois importantes considérations aptes à disposer les âmes au pardon inconditionnel des injures reçues. D'abord, il faut bien persuader à celui qui se croit offensé que l'auteur principal du préjudice ou de l'injure qu'il a reçue n'est point celui de qui il veut tirer vengeance. Ainsi l'avait compris cet admirable Job qui, maltraité cruellement par les Sabéens, les Chaldéens et le démon, ne tient d'eux aucun compte, mais se contente, en homme droit et pieux qu'il était, de dire ces mots si dignes de sa droiture et de sa piété. Le Seigneur m'avait tout donné, le Seigneur m'a tout ôté. Que son Saint-Nom soit béni. Les paroles et l'exemple de patience, de ce modèle de patience, doivent convaincre les chrétiens que tout ce que nous souffrons en cette vie vient de Dieu, qui est le Père et l'auteur de toute justice. Et même, trait de bonté immense de sa part, il ne nous punit pas comme des ennemis, mais il nous corrige et nous châtie comme ses enfants. Et en effet, si nous jugeons sainement, les hommes ne sont absolument en cela que les ministres et les exécuteurs de la justice divine. Car encore qu'on puisse haïr quelqu'un et lui souhaiter le plus grand mal, cependant, on ne peut lui nuire si Dieu ne le permet. C'est pour cette raison que Joseph supporta patiemment la détermination criminelle de ses frères. Et David, les outrages de Séméi. Ici revient très bien encore cet argument que Saint Chrysostome a développé avec tant de soin et d'habileté, à savoir que nul n'a de vrai mal que celui qu'il se fait à lui-même. Et retenez cela. Nul n'a de vrai mal que celui qu'il se fait à lui-même. En effet, si ceux qui se croient traités avec outrage veulent réfléchir sérieusement, ils comprendront certainement que les torts et les injures qu'ils ont reçus des autres ne sont rien. Car tandis que ces mots qui les atteignent sont tout extérieurs, ils se font à eux-mêmes un mal bien autrement grand, en souillant indignement leur âme par la haine, la cupidité et la jalousie. En second lieu, il y a deux grands avantages pour ceux qui, animés du saint désir de plaire à Dieu, pardonnent volontiers les injures. Le premier, c'est que Dieu a promis la rémission de leurs propres fautes à ceux qui pardonnent celles des autres. Promesse, du reste, qui montre clairement combien cet acte de charité lui est agréable. L'autre, c'est que par là, nous nous élevons à un nouveau degré de dignité et de perfection, puisque en pardonnant les injures, nous devenons en quelque sorte semblables à Dieu, qui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, et qui fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Enfin, quand nous ne voulons point pardonner les injures qui nous sont faites, nous tombons dans de tristes inconvénients, car la haine dans le cœur de ceux qui ne veulent pas pardonner étant un péché grave, s'aggrave du fait de sa durée et devient toujours encore plus forte et plus difficile à déraciner. Car puisque celui dont cette passion a envahi le cœur a soif parfois du sang de son ennemi, il passera tout plein de l'espoir de la vengeance ses jours et ses nuits à rouler perpétuellement dans son esprit quelques projets sinistres, au point même d'avoir toujours le meurtre ou d'autres crimes présents à la pensée. C'est pourquoi on ne l'amènera jamais ou très difficilement à pardonner, soit complètement, soit même en partie. Aussi, compartons avec beaucoup de raison la haine à une plaie dans laquelle le dard reste enfoncé. Il ne faut donc pas tarder à se disposer au pardon des outrages, surtout lorsque notre nature profondément blessée y répugne. Car le temps qu'on met à pardonner travaille au profit de la rancune et de la haine, en laissant se développer et grandir en nous ces sentiments négatifs qui en arrivent à empoisonner l'âme et à la priver de sa liberté à vouloir et à faire du bien, c'est-à-dire à aimer. La haine des ennemis, qui nourrit des pensées de vengeance et se refuge à tout pardon, non seulement empoisonne l'esprit, mais le plonge dans les ténèbres et l'amène à consentir à bien d'autres péchés destructeurs de la paix intérieure et extérieure. C'est dans ce sens que saint Jean a dit « Celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres l'ont aveuglé. » Par conséquent, il fera nécessairement des fautes fréquentes. Car comment approuver les paroles ou les actes de celui qu'on déteste? De là des jugements téméraires et injustes, de là des colères, des médisances et autres choses de ce genre, qui vont souvent atteindre ceux mêmes qui nous sont unis par le sang et l'amitié. C'est ainsi que d'un seul péché, il en vient beaucoup d'autres. Les meilleurs remèdes maintenant à la haine. La haine contient en elle une semence de mort. C'est pourquoi elle est appelée le péché du démon, puisque le démon fut homicide dès le commencement, dit saint Jean au chapitre 8, verset 44. Il ne faut donc pas douter que derrière toute atteinte à la vie humaine se joue une influence diabolique. Ainsi, lorsque les pharisiens veulent faire mourir Jésus, il leur dit « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Le risque pour nous d'appartenir à la progéniture spirituelle du diable, si nous ne pardonnons pas de tout notre cœur, devrait nous inciter à bannir tout sentiment intérieur de haine et à nous appliquer à la charité qui pardonne. Les meilleurs remèdes à la haine sont l'exemple laissé au monde par notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi que la pensée habituelle de notre mort. L'exemple du Sauveur que nous devons nous proposer d'imiter est en fait le premier et le plus puissant remède à tout sentiment de haine, pouvant naître d'injustice subie. Car lui, que le plus léger soupçon de péché ne pouvait même pas atteindre, après avoir été battu de verges, couronné d'épines, attaché enfin à une croix, il fit cependant cette prière si pleine de charité, « Mon Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Bien que son sang répandu parla déjà au témoignage de l'apôtre plus fort que celui d'Abel. D'autre part, pour oublier les offenses qui nous sont faites et leur répondre par un généreux pardon, le souvenir des paroles de Dieu, nous avertissant de songer souvent à l'heure de notre mort et du jugement qui la suivra, peut nous aider d'un précieux secours. « Souvenez-vous, dit l'Ecclésiastique, de vos fins dernières, et vous ne pécherez jamais. » Maxime qui revient à dire « Pensez très souvent que vous mourrez bientôt, comme alors il sera très désirable et même très nécessaire de vous concilier la miséricorde de Dieu, vous devez dès maintenant et toujours vous remettre la nécessité de cette miséricorde sous les yeux. Par là, vous éteindrez cette ardeur criminelle de la vengeance, puisque vous ne trouverez rien de plus propre à vous faire obtenir la miséricorde divine que l'oubli des injures et l'amour de ceux qui vous ont maltraité, vous ou les autres, soit en action, soit en parole. Et voyons maintenant ce que défend la cinquième parole de l'amour infini. Nous avons vu ce qu'elle prescrit, et c'est toutes les vertus, en fait, qui se rattachent à la charité, et surtout le pardon des injures. On a bien présent, c'est le pardon des injures. Et maintenant, ce que défend la cinquième parole de l'amour infini. La cinquième parole, ou le cinquième commandement de Dieu, nous ordonne le respect de la vie humaine, qui a un caractère sacré, parce que Dieu en est l'auteur, disions-nous, et que seul il en est le maître absolu. Il s'ensuit que personne n'a un droit, direct ou indirect, sur la vie d'autrui et sur sa propre vie. Personne, ni les riches, ni les puissants, ni l'État, ni les médecins, ni les sages-femmes, ni les parents. Nous savons que dans l'Antiquité païenne, le père de famille avait droit de vie et de mort sur ses enfants. À la naissance d'un enfant, il avait un pouvoir discrétionnaire sur sa vie. L'État, considéré comme tout-puissant, éliminait facilement les sujets indésirés. L'empereur, réclamant pour lui une autorité divine, pouvait disposer de la vie humaine à son gré. Le droit à la vie de toute personne humaine venant de Dieu est en lui-même inviolable. Il n'est personne, si humble et si abject que soit sa condition, dont la vie ne soit protégée par cette parole de Dieu, « Tu ne tueras pas ». Il n'est pas permis davantage de se tuer soi-même. Nul n'a assez de pouvoir sur sa vie pour se donner volontairement la mort. C'est pour cela qu'il n'est pas dit « Tu ne tueras pas autrui », mais simplement « Tu ne tueras pas ». Il n'y a pas d'exception quant à la manière d'ôter la vie. Non seulement il n'est permis à personne d'ôter la vie à son semblable de ses propres mains, ou par le fer, la pierre, le bâton, les armes à feu ou le poison, mais il est encore défendu d'y contribuer par ses conseils, ses moyens, son secours, ou toute autre manière. Dans la cyclique Evangelium Vitae, l'évangile de la vie, Jean-Paul II dénonçait les nouvelles menaces que la science fait peser aujourd'hui contre la vie humaine. Tout l'arsenal des manipulations génétiques et des moyens chimiques mis au service d'une médecine pervertie. Comme nous l'avons dit, la colère même est interdite par le cinquième commandement, car elle est mauvaise conseillère et peut facilement armer la main pour le meurtre. Quiconque se met en colère contre son frère, enseigne le divin maître, mérite d'être puni par les juges. Et celui qui dira à son frère « Raqqa » mérite d'être puni par le conseil. Et celui qui lui dira « Fou » mérite d'être jeté dans la géhenne de feu. Ces paroles montrent clairement que celui-là n'est pas exempt de faute qui s'irrite contre son frère, alors même qu'il tiendrait sa colère captive dans son cœur, et que celui qui la laisse éclater au dehors pêche gravement, et bien plus gravement encore, s'il ne craint pas de traiter son frère durement et de le charger d'injures. Telle est la vérité quand on n'a aucune raison de se fâcher. Il est pourtant une colère que Dieu permet, celle qui nous fait réprimander les personnes placées sous nos ordres et notre autorité quand elles sont en faute, en vue de leur éducation ou amendement. Pour être bonne, cette colère doit être contrôlée par la raison, sans jamais dépasser les limites de ce qui est raisonnable. Elle ne doit donc pas être inspirée par la passion, mais plutôt par l'Esprit-Saint. Tout homicide est défendu par le cinquième commandement. D'abord, des homicides directs. Le cinquième commandement proscrit d'une façon absolue tout homicide direct et volontaire. Parmi les homicides, le meurtre de son propre enfant, qui est l'infanticide, le meurtre de son frère ou de sa sœur, qui est le fratricide, le meurtre de son père ou de sa mère, qui est le parricide, sont particulièrement graves en raison des liens naturels qui se trouvent ainsi brisés. De même, les homicides indirects sont proscrits par le cinquième commandement. Le cinquième commandement interdit également toute action ou omission qui provoquerait indirectement la mort d'une personne. Ainsi, la loi morale défend de s'exposer soi-même et d'exposer quelqu'un à un risque mortel, ainsi que de refuser l'assistance à une personne en danger. Cependant, un médecin peut faire une opération chirurgicale impliquant un risque mortel dans le but de sauver une personne dont la vie est en danger, à moins qu'il n'y ait aucune possibilité de survie. Du fait qu'il n'est pas permis de s'exposer soi-même à un risque mortel, il s'ensuit que les sports extrêmes, ce qu'on appelle les sports extrêmes, les excès de vitesse ou toute autre action non nécessaire faisant courir des risques mortels sont interdits par le cinquième commandement. Du fait qu'il n'est pas permis d'exposer son prochain à des risques mortels, l'autorité publique n'a pas le droit d'ignorer le sort des réfugiés réduits à la misère et à la famine. Si dans une région donnée sévit une famine meurtrière ou une épidémie, la société a le grave devoir d'y porter remède. Sinon, elle commet une injustice scandaleuse et une faute grave, c'est-à-dire les responsables de la société. Maintenant, quelle est la culpabilité des homicides involontaires? Si quelqu'un tue involontairement une personne, on ne peut le tenir moralement responsable d'un meurtre, parce que ce n'est pas volontaire. Par exemple, dans un accident, pourvu que les règles de la prudence routière aient été observées par le conducteur. Si l'accident s'est produit en raison d'une conduite dangereuse due à la rage au volant, à un sérieux manque de vigilance ou à l'alcool ou à la drogue, le conducteur ne peut être excusé d'une faute grave. Les mêmes principes s'appliquent au médecin qui tue son patient sans avoir eu l'intention de lui donner la mort. Si cette mort est due à une négligence de la part du médecin, ou encore au recours à un moyen disproportionné au mal, le médecin ne peut être excusé d'une faute grave. Les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, qui, de par leur profession, sont au service de la vie, doivent redoubler d'attention dans la prescription et la distribution de remèdes pouvant provoquer la mort s'ils ne sont pas appropriés aux besoins du malade ou si la dose n'est pas exactement contrôlée. Dans la fabrication de remèdes, les compagnies pharmaceutiques, motivées parfois davantage par des ambitions lucratives que par la santé du public, peuvent mettre en danger la vie en mettant sur le marché des médicaments non suffisamment éprouvés. Voyons maintenant quelques espèces particulières d'homicides, en commençant par les suicides. Nous ne sommes pas maîtres de la vie que Dieu nous a donnée. Nous devons recevoir ce don avec reconnaissance et le préserver pour la gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Nous sommes les administrateurs et non les propriétaires de la vie que Dieu nous a confiée. Le suicide, par lequel on s'enlève la vie, est gravement contraire à la charité qu'on se doit à soi-même, ainsi qu'à la charité à l'égard du prochain, mais surtout à la charité envers Dieu, en détruisant son œuvre et en méprisant son souverain domaine sur la vie. si le suicide est commis pour servir d'exemple, soit un exemple d'audace ou de bravoure, et même de générosité dans le don de soi, ou pour défendre une cause estimée sacrée, en plus d'être un crime personnel, il prend alors la gravité d'un scandale. Parce que ça va inciter d'autres à faire de même. Les motifs qui induisent une personne au suicide peuvent en augmenter ou diminuer la responsabilité morale. L'acte de se suicider froidement par orgueil, comme un défi lancé à l'autorité de Dieu, par manière de refus de se soumettre à aucune loi contrariant la volonté propre, est incomparablement plus grave que si le suicide résultait de troubles psychiques, d'angoisse allant jusqu'au délire, de crainte grave de la torture, etc. Si un malade est tellement sorti de la réalité qu'il ne sait plus ce qu'il fait, le suicide qu'il commettrait ne pourrait lui être imputé comme une faute, puisqu'il aurait perdu les conditions de liberté essentielle à un acte humain. C'est pourquoi on ne doit pas désespérer du salut éternel des personnes qui se donnent la mort. Dieu seul peut juger de leur responsabilité réelle. Et comme le remarque le catéchisme de l'Église catholique, il peut leur ménager, par les voies que lui seul connaît, l'occasion d'une salutaire repentance. Donc, même pour en finir avec des souffrances jugées intolérables, le cinquième commandement interdit de recourir à la solution du suicide, commis directement ou avec l'assistance de tierces personnes. Collaborer au suicide d'une personne, fût-elle atteinte d'une maladie incurable, restera toujours un acte criminel. De même qu'on peut tuer indirectement une autre personne, par exemple en la privant de nourriture ou en refusant de lui porter secours alors qu'on le pourrait, de même on peut se rendre responsable d'un suicide indirect. Cela peut se faire en négligeant complètement sa santé, en s'exposant sans nécessité à des maladies mortelles, en refusant des soins raisonnables jugés nécessaires, comme des transfusions de sang, comme des soins là, qui sont nécessaires pour guérir le cancer. Cela peut se faire encore par des comportements qui conduisent au suicide et dont il serait possible, avec une thérapie, d'être libéré, comme dans les dépendances de l'alcool, dépendance à l'alcool, à la drogue, aux médicaments, à la nourriture, aux jeux compulsifs, etc. L'anorexie, parce qu'elle se couvre souvent de motifs mystiques, représente un danger particulier de suicide indirect. Car l'anorexique poursuit un tel idéal de minceur qu'il confine avec une volonté non avouée de destruction du corps. Le cinquième commandement ordonné au respect et à la protection du don très précieux de la vie exige qu'on prenne soin de sa santé, sans toutefois en être tellement préoccupé qu'on idolâtre son corps, à la façon de certains païens promoteurs du culte du corps. L'attitude chrétienne vis-à-vis des soins à donner à son corps se fonde sur la vertu de tempérance, qui dispose à éviter toutes sortes d'excès, comme les abus de nourriture, de l'alcool, du tabac et des médicaments. Par ces abus, auxquels il faut ajouter ceux de la luxure, d'où découlent de graves maladies transmises sexuellement, on compromet lourdement sa santé et on court vers une fin anticipée et malheureuse. L'usage de la drogue en particulier détruit la santé et met la vie en danger. C'est pourquoi, en dehors d'indications strictement thérapeutiques, la consommation de drogue constitue une faute grave. En raison des menaces contre la vie qu'elles impliquent, il est évident que la production et la vente clandestine de drogue sont des pratiques scandaleuses, gravement contraires à la loi morale. Venons-en maintenant à l'avortement. Pas plus que pour sa propre vie, on ne peut, pour quelque motif que ce soit, supprimer la vie qui, depuis la conception, se développe dans le sein de la mère. Dès la conception, en effet, il y a déjà un être humain minuscule qui a le droit de naître. Ce petit être n'est à aucun moment une excroissance de chair dont la mère pourrait se débarrasser à la façon d'une tumeur. Tout en étant intimement et physiquement relié à sa mère, il ne s'identifie pas avec elle. Il est une autre personne qu'elle. Et comme elle, il est un sujet de droit. On ne peut par ailleurs le considérer comme un injuste agresseur, même si la grossesse met la vie de la mère en danger. L'état de santé déficient de la mère ne dépend pas, comme tel, du petit enfant sans défense et innocent qu'elle porte en elle. Pour sauver la vie de la mère, il ne peut être permis de s'en prendre à la vie de l'enfant. Il faut plutôt tout faire pour sauver à la fois la mère et l'enfant. L'Église, interprète du droit absolu, rappelle avec une fermeté inflexible le principe qui éclaire ce genre de problème. Il n'est jamais permis de causer la mort à l'innocent. L'on se trompe donc quand on accuse l'Église de prendre parti pour l'enfant contre la mère, et quand on va chercher la raison de cette préférence dans le souci du salut de l'enfant. Certes, l'Église a ce maternel souci. Elle veut qu'on fasse tout ce qui est possible pour assurer à l'enfant la grâce du baptême. Mais ce n'est pas pour cela qu'elle le défend contre le meurtre. Elle le défend comme elle défendrait la mère si quelqu'un s'avisait de tuer la mère pour assurer la vie de l'enfant. On ne doit tuer personne. On peut, suivant le cas, exposer à un péril la vie de la mère pour conserver l'enfant ou la vie de l'enfant pour conserver la mère. Mais faire mourir l'un pour que l'autre vive, jamais. Cela ne relève pas d'une morale propre à l'Église, c'est du droit naturel. Dans les crises où l'alternative s'oppose, il n'y a pas d'option à faire. On ne doit rien épargner pour sauver les deux, sans porter directement atteinte à la vie de l'un ou de l'autre. Un médecin ne peut donc être justifié, en l'occurrence, de tuer l'enfant, même s'il pense que la vie de la mère est plus importante. Faire disparaître l'enfant irrégulièrement conçu, soit pour sauver l'honneur de la mère, soit sous le prétexte de son incapacité à en prendre soin, est un crime horrible, également condamné par le droit naturel, par les lois divines et par les lois humaines lorsqu'elles sont conformes au droit naturel. Une mère dont l'enfant serait la conséquence d'un viol ne peut donc être légitimée de recourir à l'avortement pour s'en débarrasser. Car si elle a été agressée injustement, il serait beaucoup plus injuste d'agresser l'enfant né en elle au point de lui enlever la vie. Aujourd'hui, la légalisation de l'avortement, sous l'appellation déculpabilisante d'interruption volontaire de grossesse, manifeste la perte du sens moral qui s'enracine dans un athéisme pratique au plan social. Pour inspirer à ces sujets l'horreur du crime abominable de l'avortement, l'Église sanctionne ce délit contre la vie humaine de la peine canonique de l'excommunication. La loi de l'Église prononce cette sentence. Qui procure un avortement, si le fait s'ensuit, encourt l'excommunication, l'acte sententiae, c'est-à-dire par le fait même de la commission du délit et aux conditions prévues par le droit. l'Église n'entend pas ainsi restreindre le champ de la miséricorde. Elle manifeste la gravité du crime commis, le dommage irréparable causé à l'innocent mis à mort, à ses parents et à toute la société. L'excommunication de l'Église frappe tous ceux qui coopèrent formellement à l'avortement. La mère qui y consent, le médecin qui le fait, l'infirmière qui coopère avec lui, le conseiller ou la conseillère. L'excommunication de l'Église frappe donc tous ceux qui coopèrent formellement à l'avortement. La mère qui y consent, le médecin qui le fait, l'infirmière qui coopère avec lui, le conseiller ou la conseillère qui aurait influé sur le consentement de la mère. Cette peine d'excommunication est immédiatement liée à la commission du délit, sans qu'il y ait besoin d'un jugement du tribunal ecclésiastique. Quant aux conditions prévues par le droit, elles concernent l'âge, 16 ans accompli, la connaissance de la loi, l'absence de contraintes, l'usage de la raison. Le droit inaliénable à la vie de tout individu humain innocent est si important qu'il constitue un élément constitutif de la société civile et de sa législation. Sans la reconnaissance de ce droit, il ne peut exister réellement de société civile fondée sur le droit, et donc un état de droit. Les droits fondamentaux de la personne humaine sont alors soumis à l'arbitraire de l'État, comme dans le monde païen, au détriment de la civilisation qui fait un incroyable bond en arrière de 2000 ans. La légalisation de l'avortement met en danger le respect inconditionnel du droit à la vie de l'embryon. Ce droit implique qu'il doit être défendu dans son intégrité, soigné et guéri dans la mesure du possible, comme tout être humain. Les interventions sur les embryons humains ne sont donc licites que dans la mesure où elles respectent leur intégrité et ne comportent pas pour eux de risques disproportionnés, mais qu'elles visent à leur guérison, à l'amélioration de leurs conditions de santé ou à leur survie individuelle. Et par conséquent, il est illicite la production d'embryons humains destinés à être exploités comme matériaux biologiques. De même, sont illicites les manipulations génétiques contraires à la dignité personnelle de l'être humain, à son intégrité et à son identité unique, non réitérable. Maintenant, voyons l'euthanasie. En quoi consiste l'euthanasie? L'euthanasie directe consiste à mettre fin à la vie de personnes handicapées, malades ou mourantes. Elle est moralement irrecevable parce qu'elle constitue un meurtre. Ainsi, une action ou une omission qui de soi ou dans l'intention donne la mort afin de supprimer la douleur constitue un meurtre gravement contraire à la dignité de la personne humaine et au respect du Dieu vivant, son Créateur. L'erreur de jugement dans laquelle on peut être tombé de bonne foi ne change pas la nature de cet acte meurtrier, toujours à proscrire et à exclure. Cependant, il est légitime de cesser des procédures médicales onéreuses, extraordinaires ou disproportionnées avec les résultats attendus. Il est ainsi légitime de refuser l'acharnement thérapeutique qui ne ferait que prolonger un peu une vie déjà irrémédiablement condamnée à une mort imminente. S'il est légitime de cesser des procédures médicales extraordinaires devant la mort considérée comme imminente, toutefois les soins ordinairement dus à une personne malade ne peuvent être légitimement interrompus. On cesse donc des procédures extraordinaires, mais pas les soins ordinaires. L'usage des analgésiques pour alléger les souffrances du moribond, même au risque d'abréger ses jours, peut être moralement conforme à la dignité de la personne humaine, si la mort n'est pas voulue, ni comme fin, ni comme moyen, mais seulement prévue et tolérée comme inévitable. Est-ce qu'il y a des cas où la loi de Dieu permet de porter atteinte à la vie du prochain? Eh bien oui. La loi de Dieu est toujours au service de la vie qu'elle défend et protège. Personne ne sera jamais légitimé de porter atteinte à sa propre vie, même s'il portait le poids des crimes les plus affreux et était consentant à les expier en se donnant la mort. Quels que soient ses motifs, fussent-ils nobles, le suicide demeure toujours en lui-même un acte criminel. Cependant, lorsque la vie humaine est devant une menace extérieure, injuste, Dieu entend la protéger en lui accordant le droit de se défendre. Ce qui peut se produire de trois manières différentes selon les circonstances où la vie est menacée. Il y a d'abord le cas de légitime défense personnelle. Il est toujours permis, en effet, de défendre sa propre vie, même aux dépens de celle d'un injuste agresseur. Le droit de se protéger l'emporte alors sur le devoir de respecter la vie du prochain. À ce sujet, deux remarques s'imposent. Premièrement, il est tout à fait légitime de défendre sa vie injustement menacée, mais ce n'est pas en soi obligatoire. Notre Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas défendu devant la cruauté absolument gratuite de ses ennemis, alors qu'il aurait pu les anéantir. En ne se défendant pas, loin de pécher, il manifestait sa charité sans limite pour ses bourreaux et pour tous les hommes. Deuxièmement, pour arrêter un injuste agresseur, s'il suffit de le frapper ou de le blesser, on ne doit pas aller jusqu'à le tuer. Il y a ensuite pour les magistrats l'obligation de protéger la vie des citoyens. Les magistrats, enseigne le catéchisme romain, ont le droit de vie et de mort dans des circonstances données pour sévir contre les assassins et pour protéger les innocents. En remplissant leurs fonctions avec équité, non seulement ils ne sont pas coupables de meurtre, mais ils observent très fidèlement la loi divine qui le défend. Car la loi a pour but de veiller à la conservation de l'existence humaine. Ainsi, la sentence des magistrats, légitime vengeur du crime, ne tend qu'à mettre en sécurité notre vie en réprimant l'audace et les outrages par le dernier supplice. En d'autres termes, la peine capitale, prononcée par les tribunaux légitimes après un procès remplissant toutes les règles de la justice, dans le but de protéger la vie de citoyens innocents, réellement menacés par de grands criminels, ne faisant aucun cas de la vie d'autrui, n'est nullement contraire à la loi divine. De sorte que, dans l'ordre de la légitimité, la société, dont le devoir essentiel est de sauvegarder les intérêts d'ordre public, a le droit de recourir au châtiment suprême, de punir ainsi les coupables, de prévenir d'autres forfaits et de préserver d'autres victimes. Cependant, l'esprit évangélique demande aux responsables du bien commun de n'exercer ce droit qu'en cas d'extrême nécessité, et toujours dans une disposition d'indulgence ouverte au pardon. Au sujet de la légitimité de la peine de mort, prononcée pour protéger la vie menacée de citoyens innocents, ce qui correspond à un cas de légitime défense sociale, le catéchisme de l'Église catholique donne ses précisions. L'effort fait par l'État pour empêcher la diffusion de comportements qui violent les droits de l'homme et les règles fondamentales du vivre ensemble correspond à une exigence de la protection du bien commun. L'autorité publique légitime a le droit et le devoir d'infliger des peines proportionnelles à la gravité du délit. La peine a pour premier but de réparer le désordre introduit par la faute. Quand cette peine est volontairement acceptée par le coupable, elle a valeur d'expiation. La peine, en plus de protéger l'ordre public et la sécurité des personnes, a un but médicinal. Elle doit, dans la mesure du possible, contribuer à l'amendement du coupable. À la différence d'un individu qui peut, sans y être toutefois obligé, se servir de son droit de légitime défense, si sa vie est menacée par un injuste agresseur, lorsqu'il s'agit de l'autorité publique, responsable de protéger la vie menacée des citoyens dont elle a la charge, il ne faut plus seulement parler de pouvoir, mais de devoir. L'autorité publique doit protéger efficacement la vie de ses sujets. S'il n'y a pas d'autre moyen efficace à cette fin que d'éliminer le criminel dangereux, l'autorité publique n'a pas d'autre choix que de s'y résigner. Mais si elle peut protéger efficacement la vie de ceux dont elle est responsable par un autre moyen que la peine capitale, elle doit y recourir. La réclusion pour de très nombreuses années dans une prison serait en un sens plus inhumaine que la peine de mort, si elle ne s'accompagnait de structures carcérales et de mesures concrètes ordonnées à la réhabilitation morale des criminels. Car le régime habituel des prisons n'en fait pas des écoles de vie morale où s'amendent d'ordinaire les assassins. Le plus souvent, les malfaiteurs s'y corrompent et s'y pervertissent encore davantage au contact d'autres criminels, et s'y excitent plus furieusement pour commettre de nouveaux délits. L'abolition de la peine de mort comme moyen de légitime défense au plan social est certes souhaitable, mais à la condition d'une véritable réforme de tout le milieu carcéral. Mais une telle réforme ne saurait être menée à bien sans la foi au Christ rédempteur et sans l'application des principes chrétiens. Telle est, face au débat sur la peine de mort, la position de l'Église à laquelle le catéchisme de l'Église catholique fait écho. L'enseignement traditionnel de l'Église n'exclut pas, quand l'identité et la responsabilité du coupable sont pleinement vérifiées, le recours à la peine de mort, si celle-ci est l'unique moyen praticable pour protéger efficacement de l'injuste agresseur la vie d'êtres humains. Mais si des moyens non sanglants suffisent à défendre et à protéger la sécurité des personnes contre l'agresseur, l'autorité s'en tiendra à ces moyens parce que ceux-ci correspondent mieux aux conditions concrètes du bien commun et sont plus conformes à la dignité de la personne humaine. C'est au numéro 2267 du Catéchisme de l'Église catholique. Et voyons maintenant le troisième cas de légitime défense, qui est le cas de la défense nationale. La guerre est un terrible fléau, non seulement par le nombre de vies humaines qu'elle fauche et les foyers qu'elle met en deuil, mais encore par les ruines matérielles qu'elle accumule et par l'arrêt qu'elle impose au libre essor de la civilisation. À Fatima, la Sainte Vierge a parlé de la guerre comme étant un châtiment permis par Dieu à cause des crimes de l'humanité. C'est pourquoi toute personne sensée ne peut avoir d'autre désir que de faire la guerre à la guerre. Devant les misères entraînées par la dernière guerre mondiale, le pape Paul VI écriait « Jamais plus la guerre ». Le véritable progrès devrait tendre à la faire disparaître totalement. Pour jouir de la paix et d'une paix durable, il faudrait supprimer toutes les causes capables de soulever la guerre. Les causes de guerre habituellement évoquées sont les attaques injustes, la violation du territoire national, la volonté de puissance d'un pays étranger envahisseur, le zèle religieux, ou bien plutôt la haine religieuse, voulant conquérir des peuples entiers par la force, etc. Le sens du bien invite à supprimer toute cause de conflit entre nations, et si le conflit éclate quand même, à en aplanir les difficultés et à les résoudre par un recours à l'arbitrage. Cependant, étant donné les passions humaines, l'orgueil ombrageux des uns, la convoitise insatiable des autres, qui peut se flatter de conjurer tout danger de guerre? L'abus de la force reste toujours possible, et à moins d'accepter cette monstruosité que la force prime le droit, un jour vient où la guerre est inévitable. Pour défendre ses droits, pour ne pas s'abandonner à l'esclavage, voilà le recours forcé aux armes et la guerre devenue un cas de légitime défense nationale. Au sujet du droit de guerre, le catéchisme de l'Église catholique reconnaît que, aussi longtemps que le risque de guerre subsistera, qu'il n'y aura pas d'autorité internationale compétente et disposant de forces suffisantes, on ne saurait dénier au gouvernement, une fois épuisées toutes les possibilités de règlement pacifique, le droit de légitime défense. Mais il y a des conditions pour qu'une guerre défensive soit moralement justifiée. Elles sont énumérées au numéro 2309 du même catéchisme. Il faut à la fois que le dommage infligé par l'agresseur à la nation ou à la communauté des nations soit durable, grave et certain. Pas que ce soit donc un dommage qu'on pense qu'il existe alors que c'est pas certain. Il faut que tous les autres moyens d'y mettre fin se soient révélés impraticables ou inefficaces. Il faut que soient réunies les conditions sérieuses de succès. Il faut encore que l'emploi des armes n'entraîne pas des maux et des désordres plus graves que le mal à éliminer. La puissance des moyens modernes pèse certes très lourdement dans l'appréciation de cette condition. Il ne faut pas oublier que le précepte de Dieu, tu ne tueras pas, a aussi un sens spirituel. Le devoir fondamental de respecter toute vie humaine innocente ne concerne pas seulement la vie physique, mais aussi la vie de l'âme, puisque l'être humain est une personne, sujet de droits inviolables, beaucoup plus par son âme que par son corps. Nous sommes des personnes beaucoup plus par notre âme. La vie de l'âme, c'est sa relation avec Dieu, dont elle est l'image, et c'est sa destinée qui est de vivre de la vie même de Dieu. La vie divine meurt, pour ainsi dire, dans l'âme par le péché. Les péchés graves volontaires, séparant l'âme de Dieu, sont pour cela dits mortels. De même qu'un homme peut enlever la vie physique à son semblable, de la même façon, il peut s'attaquer à la vie de son âme en l'entraînant dans des péchés graves, que ces péchés soient contre la foi, l'espérance, la charité ou toutes les autres vertus. Le pape Paul VI a dénoncé naguère les assassins de la foi. Ce sont ceux qui, au service conscient ou inconscient du démon, semblent prendre plaisir à détruire la foi dans les cœurs. D'autres sont les ennemis déclarés de l'espérance chrétienne, en prétendant qu'il n'y a rien avant la vie et rien après la mort. D'autres sont remplis de cette sorte de haine du prochain que l'apôtre Saint Jean identifie avec l'homicide. Surtout sont très nombreux, selon l'expérience des saints, ceux qui se comportent de manière à détacher les âmes de Dieu par le vice de l'impureté et des autres passions dont ils sont les esclaves. Telles sont les formes multiples du scandale qu'on pourrait définir comme un homicide spirituel, et que notre Seigneur, que notre divin Sauveur a condamné comme méritant le plus terrible châtiment lorsqu'il s'exerce contre des enfants innocents. Qui scandalise un de ses petits, a-t-il dit, il vaudrait mieux pour lui qu'on l'ait précipité au fond de la mer avec une pierre au cou. Le scandale revêt une gravité plus grande lorsqu'il est porté par ceux qui, par nature ou par fonction, sont tenus d'enseigner et d'éduquer les autres, les parents, les maîtres et éducateurs, les professionnels de la santé, les prêtres. Concernant le scandale, le catéchisme de l'Église catholique remarque avec à propos qu'il peut être provoqué par la loi, ou par les institutions, par la mode, ou par l'opinion. Ainsi, explique-t-il, se rendent coupables de scandale ceux qui instituent des lois ou des structures sociales menant à la dégradation des mœurs et à la corruption de la vie religieuse, ou à des conditions de la vie sociale qui, volontairement ou non, rendent ardue et pratiquement impossible une conduite chrétienne conforme aux commandements. Il en va de même des chefs d'entreprise qui portent des règlements incitant à la fraude, des maîtres qui exaspèrent leurs enfants ou de ceux qui, manipulant l'opinion publique, la détournent des valeurs morales. Concluons. Le péché originel est au commencement de toutes les atteintes qui ont jamais été portées au don de la vie reçue de Dieu. Ces atteintes ont débuté dans la première famille apparue sur la terre, alors que Caïn, par jalousie, tua son frère Abel. Au cours des siècles, la haine, la colère, la jalousie, la cupidité, l'ambition, l'orgueil, l'égoïsme jouisseur, tous vite issus du péché originel et se cachant la plupart du temps sous le masque odieux de l'hypocrisie et du mensonge, ont conduit d'innombrables individus, des pays et des empires même, dans des entreprises aussi insensées que cruelles contre la vie. Dans le monde d'aujourd'hui, qui se targue pourtant d'être parvenu à un niveau de civilisation jamais atteint auparavant, les menaces qui pèsent sur la vie humaine n'ont jamais été aussi omniprésentes. Elles viennent non seulement de cette immense épée de Damoclès qui est au-dessus de toutes les têtes, par la fabrication d'armes de destruction massive que détiennent presque toutes les grandes puissances, mais aussi de la prolifération permise de ces armes non moins meurtrières, mais apparemment innocentes, que fournit la science, soit pour éliminer de petits êtres sans défense qui entrent à peine dans la vie, ou d'autres très affaiblis qui cheminent péniblement vers le terme de leur vie terrestre. Un nombre incalculable de meurtres, pourvu qu'ils ne s'accompagnent pas d'éclats extérieurs et n'attirent pas l'attention, sont aujourd'hui protégés et même encouragés par la loi. Triste conséquence d'une culture laïque qui se dresse contre la vie, dans la mesure où elle se ferme à la sagesse et à la bonté de Dieu, manifestée dans ses commandements, signe pourtant très clair des prévenances de son amour infini pour les hommes. Le Verbe de Dieu fait chair, c'est-à-dire Jésus-Christ, né de la Vierge Marie, étant la source de la vie, comme le dit saint Jean, est personnellement attaqué en toute atteinte à la vie humaine. Aussi, ce n'est que par la foi en lui, venu sur la terre pour que le monde ait la vie, que les hommes et les peuples deviendront capables de respecter la vie en toutes circonstances, de l'accueillir toujours avec reconnaissance et de la protéger avec le plus grand soin jusqu'à sa fin naturelle, où Dieu l'appelle à retourner vers lui, à faire le grand passage dans l'espace infini de sa lumière et de sa paix.